Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le vélo, tu l'aimes ou tu le quittes? Ce message très à droite, je le temporise. Le vélo, tu peux ne pas l'aimer et nous écouter aussi. Il est 14h, nous sommes lundi 17 mars 2025 et nous sommes en direct aujourd'hui. Cette semaine, le vélo et après, mais avant, merci. Merci à vous qui me dites ici ou là, écoutez Rayon libre en pédalant sur un home trainer, en travaillant, en conduisant, dans le train ou en cuisinant encore. En glandouillant aussi, sauf que nous écouter, ce n'est plus glandouiller, trop bien. Merci aux invités, ils viennent. Parfois, ils ne sont pas certains d'avoir des choses intéressantes à dire. Et en général, sachez-le, ces invités sont les plus intéressants. C'est étonnant, non? Merci à Abel Guggenheim qui viendra conclure cette émission. Merci aux équipes, toutes de Cause Commune. Si la vie de l'association vous intéresse, et ben demain, on attend une livraison de papier toilette. Il n'y a pas de petit sujet chez Cause Commune. Vous connaissez le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Les deux contiennent la même quantité d'eau. Les pessimistes le voient à moitié vide, les optimistes le voient à moitié plein. Comment voir le verre de l'emploi dans l'industrie du cycle, à moitié plein ou à moitié vide? Eh ben, on nous dit, le vélo c'est formidable, ce sont des milliers d'emplois non délocalisables. Quand on dit non délocalisables, on pense surtout aux mécaniciens et mécaniciennes, aux éducateurs et éducatrices pour l'apprentissage de la bicyclette, aux vélocistes aussi, même si les vélocistes ils peuvent vendre en ligne leur bicloune avec un site géré à Riga, une plateforme logistique à Bucarest, et pour le montage des vélos, eh ben, les artisans ils peuvent monter leur vélo d'où ils veulent. Les industriels, souvent, ils préfèrent le Portugal à la France, souvent. On nous dit que l'industrie du vélo, elle embauche, c'est vrai, elle a même du mal à recruter. Le verre se remplit, donc, sauf que l'industrie du cycle, elle dégraisse aussi. Rien qu'à Paris, j'ai l'information que 5 vélocistes ont fermé ou vont fermer. Il n'y a pas qu'à Paris que l'industrie du cycle licencie. Et quand on fait sa carrière dans le vélo et qu'on est licencié économique, on fait quoi? On va où? A-t-on toujours envie de vélo? Et 30 ans dans l'industrie du cycle, ça mène où? Et après, on fait quoi? C'est la situation de mon invité du jour. 30 ans à bosser dans l'industrie du cycle, 30 ans à d'aller pour ses différents employeurs. En novembre, on lui apprend qu'il fait partie d'un plan social. En janvier, il est au chômage. Se dit-il, super, plus de temps pour pédaler. Ou merdouille, je fais quoi maintenant? Et le vélo, ça mène à quoi? Et après, voyons donc tout cela avec Michel Détenet qui est au téléphone avec moi aujourd'hui. Bonjour Michel, merci d'être au micro avec nous.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Eh ben, merci
de me donner la parole.
Eh ben, c'est un plaisir de vous recevoir Michel. Alors Michel, quand même en préambule, hein, l'idée de cette émission aujourd'hui, c'est pas de dénoncer ou râler sur votre employeur, c'est aller bien, puis moins bien, puis mieux, c'est un peu la vie d'une entreprise. L'idée aujourd'hui, c'est de raconter aussi ce qui est peu raconté, peu mis en avant, peu compréhensible aussi du grand public, notamment cette sensation quand on dit je bosse dans le vélo, l'interlocuteur qui a les yeux qui se transforment en dollars, comme si l'imaginaire de l'industrie du cycle, c'était il a trouvé le bon filon. Vous avez ressenti ça, vous aussi, un peu ces dernières années ou pas du tout?
Peut-être par moment, mais c'est comme toute industrie, il y a des hauts et des bas. Et aujourd'hui, on voit peut-être la fin du tunnel, mais le très haut qu'on a connu au moment du Covid s'est suivi d'un très bas depuis 3-4 ans.
Hein. Ouais, depuis 3-4 ans. Et vous, Michel, pour juste vous resituer un peu, vous avez fait toute votre carrière professionnelle dans l'industrie du bicloune ou pas?
Une grande partie, plus de 30 ans, mais auparavant dans le ski, enfin toujours dans le sport, quoi qu'il en soit.
Ouais.
Mais le vélo étant ma deuxième passion, c'est ce qui m'anime en fait quand je suis une carrière professionnelle. Il faut quand même qu'il y ait des atomes crochus avec ce que je fais dans la journée. Et là, le vélo, je suis tombé dedans étant tout petit.
Et alors justement, c'est ce que vous me disiez un tout petit peu avant, en tant qu'ancien dans cette industrie, vous disiez 2020, enfin le post-pandémie, ça a été un peu une sorte d'âge d'or, mais qu'est-ce qui, selon vous, alors si je comprends, vous avez, ça fait à peu près 30 ans que vous êtes dans l'industrie du cycle, qu'est-ce qui a vraiment changé en mieux entre 2025, 2020, 2005, 95? Est-ce que vous avez vu une évolution de cette industrie?
Il y a eu une très grosse évolution, notamment dans l'intégration des éléments composant le vélo.
Ouais.
Auparavant, extrêmement morcelé, le vélo, c'est un assemblage de 120 pièces environ. Et des fabricants, il y a des spécialistes de tout, des spécialistes de la selle, du guidon, de la poignée, de la sonnette, du rayon, pour pouvoir améliorer leur marge, et maîtriser l'intégralité du produit vélo qui est un assemblage.
Oui.
Voilà.
En fait, un fabricant de vélo, à part peut-être s'occuper du cadre, il fabrique pas grand-chose. Il assemble différentes pièces pour composer un vélo.
Ouais, c'est un peu ça, mais maintenant il arrive aussi à composer et à créer d'autres éléments tels que des tiges de selle, des cintres ou des roues.
Ouais.
Il y a encore quelques chasses gardées, notamment tout ce qui est suspension, tout ce qui est transmission, ouais, ou frein, notamment tout ce qui est frein à disque, mais les autres accessoires. Grosso modo, les grands acteurs du secteur ont réussi à mettre leur marque dessus,
ouais,
et à faire du développement aussi, même, ouais, jusqu'aux pneus, ouais, sans être forcément des fabricants de pneus au sens où ils récoltent le caoutchouc et où ils ont une usine, ouais, en nom propre. Ça peut être fabriqué chez un spécialiste du pneu, mais selon leurs directives, leur cahier des charges,
et ensuite, à la fin, leur
marque est imprimée dessus.
Ouais. Est-ce que vous êtes surpris aujourd'hui, en 2025, que l'industrie du cycle elle ne se porte pas si bien ?
Non, pas tellement surpris, dans le sens où il y a eu en fait une sorte de bulle spéculative au moment justement du Covid,
ouais,
où tout le monde, enfin beaucoup d'investisseurs se sont jetés sur l'occasion en se disant « Ouh là là, c'est très intéressant, les chiffres explosent, tout le monde se met au vélo, il faut que j'investisse dans ce secteur. Mais ils ont vite déchanté derrière parce que c'est pas un secteur très, comment dire,
la valeur ajoutée, en fait, la valeur ajoutée est très, la marge de manœuvre est très limitée, c'est ça, non ?
C'est très faible, ouais. Moi, où je travaillais jusqu'à maintenant, on avait bien compris, enfin, les créateurs de cette marque avaient bien compris qu'il fallait se spécialiser dans le composant pour ensuite fournir ces composants aux fabricants de vélos.
Ouais.
La marge était plus intéressante à faire du composant que du vélo complet où on laisse des bouts de marge à tous les autres fabricants qui vous fournissent en pièces détachées.
Ouais. Et d'ailleurs, quand je dis est-ce que vous êtes surpris que l'industrie ne se porte pas si bien, c'est un peu un euphémisme, non ? En vrai, l'industrie, elle va mal ?
En fait, elle va mal, oui et non. Il y a des secteurs qui se portent bien, même s'ils ne sont pas en progression. Ils sont plats, mais ils sont déjà assez hauts. Par exemple, tout ce qui est urbain.
Ouais.
Le vélo urbain se porte bien. Évidemment, c'est pas des taux de croissance à deux chiffres, mais ça se passe bien. Il y a certaines branches du vélo qui vont bien aussi, comme le petit nouveau depuis quelques années, le gravel,
ouais,
qui est à mi-chemin entre le vélo de route et le VTT, ça se passe bien aussi. Après, il y a d'autres secteurs qui souffrent beaucoup, comme par exemple le VTT mécanique classique,
ouais, ouais,
par opposition au VTT électrique,
ouais,
où ça se passe moins bien. Mais parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs, et puis la crise aidant, les prix se sont un peu envolés avec le coût de l'énergie, le coût des matières premières, de l'import-export, etc. Parce qu'il faut savoir aussi que beaucoup, beaucoup de ces pièces viennent de l'étranger, voire hors Europe, et du coup, les coûts se sont envolés, quoi.
Ouais. Est-ce que les acteurs du cycle, selon vous, qu'est-ce que les acteurs du cycle, selon vous, ils n'arrivent pas à changer, ou qu'est-ce qu'ils ont raté dans le post-Covid ?
Ah, qu'est-ce qu'ils ont raté ? En fait, ils se sont laissés bercer d'illusions,
ouais,
en disant le gros boom va perdurer, mais en fait, pas du tout.
Ouais.
C'était juste une bulle. Et du coup, quand la bulle a éclaté, on est revenu aux réalités et avec des stocks monstrueux sur les bras à écouler, qui coûtent très cher en argent immobilisé.
Ouais.
Et du coup, ça empêche d'avancer aussi, parce que on essaye d'avancer, mais avec un boulet à la patte.
Ouais. Et d'ailleurs, on le voit, hein, Giant, ils viennent de faire un write-off, donc de ressortir leur stock pour assainir leur bilan comptable dans les années suivantes. Parlons de vous un peu, Michel. Est-ce que vous avez la sensation que ce que vous savez faire dans l'industrie du cycle, elle serait applicable ou duplicable, ou elle aurait une valeur dans d'autres industries ?
Je pense, parce que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de travailler avec des gens motivés, passionnés, brillants, passionnants. Ouais. Et à partir de là, il est possible de travailler en bonne intelligence avec beaucoup de gens. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresserait, par exemple, ce serait peut-être d'évoluer vers la promotion du territoire, ouais, ou des choses comme ça, liées au vélo, évidemment, avec, ouais, mes connaissances dans ce secteur-là. Pour justement insuffler peut-être une vision du secteur privé vers des secteurs publics qui sentent bien que de toute façon c'est pas demain la veille que la pratique du vélo va baisser.
Oui.
Il suffit de regarder autour de soi. Hein.
Oui.
Moi, en une dizaine d'années, ici où j'habite...
Vous habitez dans le 74, hein, du côté d'Annecy, hein, pour
voilà,
préciser.
Voilà, Annecy, bon, peut-être que c'est aussi particulier où c'est une ville très sportive, mais même au-delà du côté sportif, la pratique quotidienne du vélo pour se rendre au travail ou autre a explosé.
Ouais.
A explosé. Et de même que la pratique au féminin aussi a explosé.
Ouais.
Il y a une quinzaine d'années, on ne voyait pas autant de femmes sur des vélos.
Ouais.
Donc tout ça me fait dire que le vélo a encore de beaux jours devant lui.
Oui, mais au-delà du vélo, ma question initiale, elle était vous. Alors, vous êtes entre guillemets à disposition depuis quoi? Depuis le mois de janvier. Vous êtes en recherche d'emploi
depuis fin janvier. Ouais.
Ouais, depuis fin janvier. Fin janvier. Donc ça fait un mois et demi. J'imagine que vous avez refait un CV, que vous avez lancé un peu des perches à droite à gauche. Est-ce que vous ressentez, alors pour le parler comme si j'étais une start-up, de l'attraction sur votre profil?
Pas vraiment.
Pas vraiment.
Pas vraiment. Je sens bien en tout cas que le secteur fait attention. Le bout du tunnel n'étant pas arrivé, le secteur fait encore très attention à ses dépenses.
Oui.
Et essaye de maximiser le peu de budget disponible en réduisant un maximum ses dépenses. Et du coup, en allant plutôt vers le moins 10 ans, quoi.
Oui, mais ma question près d'avant était, est-ce que vous avez la sensation que ce que vous savez faire et votre expertise du vélo, mais aussi, on peut le dire, vous étiez en relation presse et à la communication, ces expertises-là, si vous tentez de sortir de l'univers du vélo, elle intéresse, elle génère de la curiosité, elle génère du retour, ou c'est encore un peu tôt pour avoir une vision là-dessus?
C'est un petit peu tôt, je dirais. Ceci dit, j'essaye quand même de ratisser large,
oui,
de m'intéresser à plein de sujets, aller à des conférences, à même m'inscrire en tant que bénévole sur un festival du vélo ici à Annecy,
oui,
à faire du réseautage, à discuter à droite à gauche avec pas mal de personnes du secteur,
oui,
pour essayer un peu de voir quelle carte je pourrais jouer ou mettre en avant. Mais je sens bien aussi qu'il y a un gros frein, dans le sens où bah justement ce côté 30 ans d'expérience fait presque peur,
ouais,
en se disant « Oulala, mais je pourrais jamais m'offrir quelqu'un qui a autant de... qui a un cahier des charges... enfin, qui a un
une
carnet d'adresses,
ouais,
énorme comme le mien. Moi, j'ai plus de 250 journalistes en contact direct depuis une quinzaine d'années. Dans mon portefeuille, j'ai fait des campagnes de pub, créé des pubs, des vidéos. J'ai même changé de marque,
ouais,
sur ces 15 dernières années, où on a eu en licence une grande marque que vous connaissez sûrement à trois bandes.
Ouais.
Il a fallu l'intégrer dans l'univers du vélo où elle était plus depuis quelques années, etc., etc. Donc c'est la variété de ces de toutes ces missions qui ont fait que je suis resté aussi longtemps à ce poste-là. Parce qu'il y a un renouvellement permanent dans le vélo. Il y a comme une effervescence permanente. Vous voyez le vélo électrique, ça fait pas si longtemps qu'il est là. Le gravel non plus. Le BMX qui arrive au JO, c'est aussi du vélo. Et on commence à le voir de plus en plus à l'écran. Enfin, c'est un secteur quand même qui est très dynamique. Et qui est en constante évolution. Les cargos en ville, on n'en parlait pas il y a 10 ans,
ouais,
quasiment. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et mais c'est vrai que c'est un secteur qui a un fonctionnement un peu je sais pas comment dire, qui est particulier, on va dire. C'est pas aussi carré que de l'industrie
lourde
classique.
Ouais. Mais on en parlera justement ouais. de ce sujet-là, de une industrie qui est un peu particulière et peut-être voir aussi en quoi elle est un peu particulière. Mais pour l'instant, c'est la pause musicale. Il est 14h15, c'est le moment de vous proposer donc cette pause. De non-genré, mais quand même un peu binaire, ce morceau Boys and Girls de Joe Mox. On va s'écouter ça, vous allez voir, c'est très bien. Et puis, on est avec Michel Letenet, 30 ans dans l'industrie du cycle, le nez dans le guidon. Et depuis un peu plus d'un mois, il pédale dans la choucroute ou pas, malgré lui en tout cas. À tout de suite. En tout cas sur Cause Commune, Rayon Libre, on s'écoute Boys and Girls et on se retrouve dans 3 minutes. Allez, à tout de suite. C'est Rayon Libre en direct lundi 17 mars avec Michel Letenet, on cause vélo. Et après, une vraie question, quand comme Michel, on comptabilise 30 ans dans l'industrie et que du jour au lendemain, on se retrouve relégué à la voiture balai, quoi. Michel, avant Boys and Girls, vous disiez le cycle est une industrie un peu particulière. En quoi, selon vous, elle est un peu particulière?
Je pense qu'elle est particulière dans le sens où elle est très, très, très orientée et dirigée par des gens passionnés.
Ouais.
Et quand on parle de passion, des fois, on en oublie un peu la réalité du business, de ce qu'on apprend en cours, des business plans, d'un marketing très carré, d'un sourcing, d'une gestion de stock très très carré, etc. Même si je dis pas que on fait n'importe quoi dans le vélo, loin de là. Mais ce qui différencie souvent les marques qui ont su s'imposer et être présentes au plus haut niveau, c'est qu'elles ont finalement mis de côté ce côté passion
oui.
pour s'accrocher plutôt sur le côté business.
Ouais.
Et du coup, ça fait des gros écarts.
C'est hyper intéressant ce que vous dites, et c'est ce que vous disiez en première partie d'émission. Vous, ce que vous cherchez, c'est de travailler avec des gens passionnés, mais surtout passionnants. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que quelqu'un de passionné, il faut qu'il arrive à rendre sa marque passionnante, et c'est un autre sujet.
Voilà.
Ouais.
C'est pas évident toujours à retranscrire, à diffuser, à faire comprendre. Et à embarquer les gens avec votre passion et votre vision des choses, qui peut être très personnelle au final.
Ouais. Vous étiez, vous, parce qu'on pourrait aussi évoquer, là on parle du sujet de l'industrie du cycle en France, mais vous étiez sur une marque qui a quand même une présence mondiale, ou en tout cas européenne et américaine. L'international, c'est une option pour vous ? Est-ce que c'est même une force ?
Je crois que c'est essentiel aujourd'hui. Le vélo, c'est pas... Les deux peuvent coexister, hein.
Ouais.
Mais aujourd'hui, quand on voit la structure industrielle du vélo, comme je disais tout à l'heure, c'est un assemblage de beaucoup de pièces, un vélo. Malheureusement, il y a énormément de pièces de vélo qui ne viennent pas de France, si on veut regarder chez nous, qui ne sont plus fabriquées en France. Il n'y a plus de compétences, il n'y a plus de fabricants. Donc le sourcing, il est obligé de se faire à l'étranger pour énormément de pièces, et au final, les flux internationaux, import-export, ils sont là, et on peut pas faire sans.
Ouais.
Donc, tout dépend de la taille d'entreprise qu'on veut atteindre.
Ouais.
Il y a ça aussi. On peut très bien se satisfaire d'un marché national sur une niche, sur un métier particulier, sur, par exemple, du vélo sur mesure, soudé à la main, et diffusé uniquement en France ou en Europe. On sait très bien à ce moment-là qu'on ne grossira jamais avec des dizaines d'employés et puis une structure internationale.
Ouais.
Mais peu importe, il en faut pour tout le monde. Un grand fabricant, de toute façon, n'arrivera pas non plus à répondre à toutes les niches et tous les besoins qui existe dans le vélo
c'est ça aussi,
les pratiques sont diverses.
Oui, c'est ça aussi qui est très particulier au monde du vélo, c'est qu'il y a plein de pratiques différentes et il y a plein de sous-segments différents qui adressent des usages et des pratiques différentes. Et il faut arriver à coordonner tout ça. Est-ce que vous, aujourd'hui, Michel, vous êtes en recherche active d'emploi ?
Tout à fait.
Ouais. Et dans un monde idéal, ce serait pour faire quoi ?
Ce serait pour faire quoi ? Ce serait pour... faire la promotion de produits ou de la pratique du vélo parce que le vélo il y a besoin de communication de beaucoup de communication. On est dans une ère de communicants et tous les jours autour de nous on est bombardé de messages, mais la difficulté c'est de trouver sa clientèle, trouver son audience, son public, et de lui parler avec des mots qu'il comprend. Donc, comprendre son client, c'est la base.
Ouais. Est-ce que vous êtes amer aujourd'hui ?
Non.
Non ?
Non, pas du tout. Non. Je suis très content de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'était très varié et très enrichissant. J'ai un réseau qui m'a apporté beaucoup, au-delà des simples échanges professionnels. Au niveau personnel, c'est tout à fait excellent. J'ai des contacts aux quatre coins de l'Europe et du monde, et qui restent en bonne partie. Ce qui est intéressant dans ce milieu-là, c'est aussi, comme on partage une passion commune un peu dévorante, ça dépasse souvent le cadre professionnel.
Ouais. Contre mauvaise fortune, bon cœur, vous en profitez pour pédaler un peu plus ?
Pour l'instant, l'hiver à Annecy, oui, je pourrais, mais je profite aussi des montagnes et donc du ski. Mais j'ai rattaqué quand même le vélo les belles semaines, là, et puis, voire même, vous voyez, après 38 ans de VTT derrière moi, je reprends des cours de pilotage enduro avec un club local parce que en fait, il y a toujours à apprendre.
Il y a toujours à apprendre. Ça va être le moment de la chronique d'Abel Guggenheim, parce qu'on est sur Rayon Libre, il est 14h25 tout pile, et je vous poserai une dernière question après, Michel, après la chronique, c'est est-ce que vous savez pédaler sans les mains, et est-ce que c'est un soft skill que vous pouvez faire, qui peut faire la différence sur votre CV? Mais vous avez, vous avez les 3 minutes de la chronique d'Abel pour réfléchir à votre réponse. On écoute Abel, qui va végétaliser un peu notre vie, et puis on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite, Michel.
Cause commune à Paris, 93.1 en FM, sur le bloc 9A du DAB+, et partout ailleurs, causecommune.fm et sur l'appli Cause commune.
Bonjour. Dimanche prochain, 23 mars 2025, la ville de Paris organise une nouvelle édition de ce qu'elle appelle depuis quelque temps une votation, c'est-à-dire en fait un vote. La question posée cette fois-ci est « Êtes-vous pour ou contre végétaliser et rendre piétonne 500 nouvelles rues dans Paris réparties dans tous les quartiers ?» Il s'agit donc pour les Parisiennes et les Parisiens de se prononcer sur l'accélération de la végétalisation et de la piétonnisation à moins de 300 mètres de chez eux de 5 à 8 rues nouvelles par quartier. Il semble peu probable dans la période actuelle que la réponse à cette question soit négative. L'opportunité de ce type de vote est souvent controversée, puisque cela revient à faire avaliser une décision des élus qu'il leur appartient de prendre dans la mesure où elle est cohérente avec l'orientation générale du programme des élections précédentes et dont ils ou elles ont toute raison de penser qu'elle est majoritaire. Mais sur le fond, on ne peut être que d'accord avec cette proposition qui se situe à la fois en cohérence avec ce qui a été fait jusqu'à présent, en particulier la modération de la circulation, en allant plus loin en ce qui concerne la végétalisation. Il convient de ne pas l'oublier, la demande de végétaliser, aussi bien pour l'agrément que pour des raisons climatiques, était sensiblement moins forte il y a quelques années, et les demandes citoyennes désignaient en tout premier lieu la pollution, le bruit et la place excessive prise par l'automobile, des agréments qui n'ont pas disparu bien sûr, mais sont aujourd'hui sensiblement moindres. L'aménagement de la place de la République, qui bénéficiait lors de son inauguration en 2013 de félicitations générales, est aujourd'hui souvent critiqué justement pour son caractère trop minéral. La piétonnisation des voies sur berge, d'abord rive gauche par Bertrand Delaneuil en 2013, puis rive droite par Anne Hidalgo en 2016, s'est faite sans demande particulière de végétalisation, et aujourd'hui encore, la qualité générale du lieu en bord de Seine semble ne pas entraîner de souhait des personnes qui se promènent sur ce qu'on appelle aujourd'hui par rive de Seine à ce que ce long ruban minéral soit végétalisé. Je ne serais pas étonné que cette demande se matérialise bientôt. L'objectif principal des rues aux écoles, rues aux enfants, rues piétonnes, a consisté surtout à faire baisser et si possible éliminer la circulation motorisée. La coupure de la circulation devant les écoles est soit temporaire, aux heures d'entrée et de sortie des élèves, soit, lorsque c'est possible, toute la journée. La qualité de ces lieux est dans de nombreux cas remarquable, les jardiniers de la ville de Paris ayant réalisé dans certaines de ces rues des aménagements de grande qualité, où parfois, même le dimanche, les enfants viennent jouer, les familles se réunissent, ce qui revient à réaliser de véritables petits squares locaux complémentaires des squares officiellement dénommés ainsi. C'est donc très logiquement que cette proposition de rue jardin apparaît aujourd'hui et sera sans doute avalisée dimanche prochain. Nous nous retrouverons le lendemain lundi.
Cause commune, la voix des communs.
Et oui, et la réponse sera dimanche prochain. C'était Abel Guggenheim. Une dernière question pour vous, Michel Détenet. Est-ce que vous savez pédaler sans les mains?
Ah oui, depuis très longtemps. Ayant fait 10 ans de BMX freestyle, c'est pas un souci pour moi. À l'endroit, à l'envers, en équilibre, un pied sur le guidon, un pied sur la selle, pas de souci.
Et c'est un soft skill que vous pouvez mettre sur votre CV, vous croyez ou pas?
Bah, ça pourrait, on sait jamais, hein. Mais il faut que le lecteur soit un peu freestyle aussi dans son cerveau pour saisir les sous-entendus de l'adaptabilité.
Et ceci dit, j'ai une dernière question qui me vient, ou en tout cas une suggestion ou une idée. Vous êtes en Haute-Savoie, il y a bientôt les championnats du monde du CI qui vont avoir lieu en Haute-Savoie. C'est pas une opportunité pour quelqu'un comme vous ?
C'est une très bonne opportunité. D'ailleurs, je me suis inscrit à un colloque, à une conférence de la Chambre de commerce et d'industrie jeudi soir à La Roche-sur-Foron, où justement, je pense que le sujet principal va être celui-ci. Ouais. Parce que là, c'est 2027, donc c'est après-demain.
Ouais.
Et il y a du pain sur la planche.
Eh ben super, eh ben, je vous le souhaite. En tout cas, auditeurs, auditrices, ça y est, ce rayon libre est terminé. Soyez pas tristes, c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez enfourcher votre vélo en poste ou pas. Prenez quand même le temps de pédaler, parce qu'une journée sans pédaler, c'est évidemment une journée gâchée. Et puis, à la semaine prochaine. Et Michel, je vous souhaite le meilleur et peut-être de trouver un recruteur jeudi prochain. Merci beaucoup, Michel. À la semaine, à bientôt.
Merci, Jérôme. Au revoir.
Rayon libre.